8h, j'ai bien dit, sur Inter. Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Le début de la fin, on voudrait y croire. Chiffres en baisse depuis 5 jours. Moins de patients en réanimation, moins de cas positifs. La vaccination qui s'élargit, le déconfinement qui pointe à l'horizon. Etretat se prépare à accueillir les touristes. Vos invités, Eric, à ouvrir les musées.
Les musées avec nos deux invités, Sophie Lévy, qui est directrice du musée des Arts de Nantes, et Marie Lavandier, directrice du Louvre Lens.
Dans l'actualité encore, défilé du 1er mai hier et la CGT attaquée, caillassée, 21 blessés. La mort de Ben Laden, tout juste 10 ans. Toulouse en finale de la Coupe d'Europe de rugby et puis des cavaliers français au JO de Tokyo. C'est l'esprit sport à la fin du journal.
France Inter.
Une lente décrue. Pour le 5e jour consécutif, baisse du nombre d'hospitalisations. Moins de 5600 patients en réanimation hier. 24 000 cas positifs en moyenne par jour contre près de 40 000 il y a un mois. Et le gouvernement mise tout sur la vaccination pour réussir son déconfinement. Les doses accessibles depuis hier à tous les plus de 18 ans qui souffrent de comorbidité. Reportage dans un centre du 11e arrondissement de Paris, Mathieu Message.
Notamment celle atteinte d'obésité ou en surpoids. Les médecins ont constaté qu'elle risquait de développer des formes graves de Covid-19. Youssef, 27 ans, a tenté sa chance.
C'est de mon plein gré sur analyse de mon IMC qui est supérieur à 30. Et de toute façon, de ce que j'ai compris, c'est conforme à ce qu'avait annoncé le ministre Olivier Véran. C'est sur la bonne foi des personnes et j'estime être une personne d'assez bonne foi.
Lorraine, une étudiante de 22 ans, a reçu sa première dose de Pfizer. Pas de comorbidité, mais elle souhaite protéger son entourage.
Pour prendre rendez-vous, j'ai pris en ligne sur Doctolib. Mon père, il a été greffé d'un rein, donc il prend des anti-rejets, il est immunodéprimé. Et là, ils ont élargi la vaccination aux proches des personnes immunodéprimées parce que la vaccination n'est pas toujours très efficace pour cette catégorie de population. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Tous n'entrent pas dans ces critères. Pourtant, ils ont été vaccinés. Alexis, 34 ans, n'a pas attendu qu'on lui donne le feu vert.
Je suis passé par le site Vite Ma Dose, en fait, qui nous renvoie directement sur des créneaux disponibles. Comme on a vu qu'en ce moment, en France, il y avait beaucoup de doses de vaccins qui n'étaient pas utilisées, nous, on s'est dit qu'on tenterait notre chance pour aujourd'hui. Et effectivement, ça valait le coup, puisqu'on vient de se faire vacciner, et c'était très bien organisé.
Et pour les autres, un peu de patience, tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner dès le 15 juin.
Un reportage France Bleu Paris, Mathieu Message. Prioritaire aussi pour la vaccination, et depuis le 17 avril, les enseignants de plus de 55 ans. Or, seulement 20% se sont fait vacciner à ce jour. Peut-être l'effet repoussoir de l'AstraZeneca. Quoi qu'il en soit, à partir de la semaine prochaine, la campagne s'élargit à tous les profs de plus de 50 ans qui s'occupent d'élèves en situation de handicap et au personnel dans les maternelles. Collégiens et lycéens qui, eux, retournent en classe demain en demi-jauge pour les lycées avec le dépistage systématisé. Dès demain pour les enseignants, à partir du lundi 10 mai pour les élèves, le ministre Jean-Michel Blanquer n'exclut pas de les introduire d'ici la fin du mois dans certaines classes de collège. La piqûre pour tous les adultes est sans condition, ce sera pour le 15 juin. En attendant, un Français sur 10 est totalement vacciné à ce jour. C'est encore peu, loin en tout cas de l'immunité collective comme au Royaume-Uni ou en Israël, loin aussi du rythme allemand. Berlin, correspondance Ludovic Piétenu.
Ce mois d'avril vient de se terminer en établissant chaque jour de la semaine un nouveau record. D'ici ce soir, 22h, heure de fermeture habituelle des 440 vaccinodrome, l'Allemagne devrait avoir administré en 7 jours plus de 4,5 millions de doses, soit quasiment 2 millions de plus qu'en France. Ce sursaut, on le doit à la fin du feuilleton AstraZeneca, le vaccin mal aimé dont les stocks s'accumulaient au point qu'il risquait d'être jeté, si bien qu'il y a 10 jours, une ville comme Berlin l'a rendu accessible à tous, provoquant une ruée chez les médecins généralistes. C'est l'autre raison, ces 50 000 cabinets médicaux ont fait leur entrée dans cette campagne. Et dernier élément, l'augmentation conséquente de l'intervalle entre deux doses fait que l'Allemagne a revu sa copie très prudente des débuts. Elle tape désormais dans des stocks. Dans les 16 Länder allemands, à titre d'exemple, on a utilisé ces tout derniers jours deux fois plus de vaccins que ce qui avait été livré en début de semaine. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Vaccination plus lente en France et restrictions qui vont se lever, mais au compte-gouttes. Et visiblement, pour certains, ça devient de plus en plus dur d'attendre. Fête déconfinée, avortée, quai de Bercy à Paris. Hier, 2 à 300 personnes dispersées par la police. Musique techno, là encore, et près de 500 teufeurs réunis depuis hier soir pour une free party à Couchet, près de Dijon. Les forces de l'ordre ont sorti les gaz lacrymogènes et l'hélicoptère cette nuit pour empêcher d'autres jeunes d'entrer sur le site. L'étau qui se desserre, la liberté retrouvée, patience, ça arrive. À partir de demain, terminée déjà la règle des 10 kilomètres, on va pouvoir à nouveau voyager d'une région à l'autre. Première étape du déconfinement qui s'étale jusqu'à fin juin avec les professionnels du tourisme dans les starting blocks, comme ici à Étretat en Seine-Maritime, Valentin Dunat.
À Étretat, il y a les falaises, bien sûr, les goélands et un beau ciel bleu, tout ce qu'il faut pour attirer les touristes par milliers. Mais ce week-end, les ruelles sont quasi désertes.
On a l'impression que c'est l'hiver alors que l'été arrive, quoi.
C'est quoi votre prénom ?
Bastien !
Vous êtes cuisinier ici ?
Oui, cuisinier. Je vais bientôt commencer la saison, en principe, à partir de la semaine prochaine.
En effet, les réservations affluent ces derniers jours. Pour le constater, direction le donjon.
Hôtel-restaurant sur les hauteurs d'Étretat, vue exceptionnelle.
Omar Abodab est le propriétaire de cet hôtel de 25 chambres et du restaurant gastronomique qui vient d'obtenir sa première étoile au guide Michelin.
La clientèle s'est ruée au téléphone, sur les mails. On sent que les gens reviennent et là, en l'occurrence, ce soir, on est complet.
Alors si cet hôtel a ouvert ses portes, la plupart sont encore fermés. Il devrait rouvrir progressivement, comme les gîtes et les chambres d'hôtes. Véronique tient la Villa des Peintres au centre-ville.
Bonjour madame.
Bonjour. À partir du 12 mai, toutes les réservations sont complètes jusqu'à fin mai. Mais ça s'est fait en 3 jours de temps.
Le véritable lancement de la saison touristique est attendu le 19 mai avec l'ouverture des terrasses. D'ici là, il est encore possible de profiter du calme à Étretat.
Deuxième étape, donc le 19 mai, réouverture de ces terrasses. Anne Hidalgo, la maire de Paris, promet déjà de pérenniser le principe des terrasses éphémères qui avaient envahi les trottoirs de la capitale l'été dernier, avec une exonération pour les propriétaires jusqu'à la fin de l'été. Anne Hidalgo qui, par ailleurs, dira à l'automne si elle est candidate ou non à la présidentielle. Pas question, en tout cas, de participer à une primaire. Elle est contre le principe. Interview à lire dans le journal du dimanche. De la politique, encore dans le JDD ce matin, avec En Marche derrière la droite, Jean Castex. Castex annonce le retrait de la liste macroniste en PACA au profit du sortant, le LR, Renaud Muselier. Une alliance donc pour les régionales qui pourrait bien faire tache d'huile dans d'autres régions et pourquoi pas donner des idées aussi pour l'an prochain, la présidentielle. En tout cas, la consigne du patron de la droite, Christian Jacob, hors de question, avait-il dit, de pactiser avec les marcheurs, a bien volé en éclats.
Les défilés du 1er mai, de retour hier sur les pavés, un peu partout en France.
Retour aussi des violences, affrontements dans le cortège parisien notamment. Contre les forces de l'ordre, c'est classique. Contre la CGT, ça l'est beaucoup moins. 21 blessés dans ses rangs, assure ce matin le syndicat. Attaqué à la fin du défilé, caillassé, victime aussi d'insultes racistes et homophobes. Des groupes violents que les forces de l'ordre n'ont pas voulu canaliser, dénonce Benjamin Hamar, un porte-parole.
Il y a, dans la théorie marxiste, un concept que j'aime bien, qui est celui d'allié objectif. J'ai jamais vu une scène où la notion d'allié objectif, elle prenait plus son sens. C'est-à-dire que vous aviez les forces de police qui nassaient et qui empêchaient les camions syndicaux de sortir, et en même temps, des éléments type Black Bloc, je sais pas qui étaient ces gens, mais qui portaient une haine antisyndicale inouïe, visiblement très ciblée sur la CGT, en nous traitant, nous, de collabos, enfin, je veux dire, on hurle de rire, quoi. Franchement, un tel niveau de bêtise, j'en ai rarement croisé, quand même. Donc moi, je vois là-dedans un climat extrêmement, réactionnaire, un climat ultra-droitier, en réalité, et que, visiblement, les autorités, ça leur va très bien.
Benjamin Hamar de la CGT au micro de Marianne Naquet, le bilan de ces défilés du 1er mai. Des chiffres du ministère de l'Intérieur, ça donne aussi au total 56 personnes arrêtées, dont 46 à Paris, 6 policiers blessés, la plupart dans la capitale. Côté manifestants, 100 000 personnes dans les rues de France, selon la police, 170 000 pour les syndicats. C'était il y a 10 ans, 5h30 du matin, heure française, 23h30 à Washington, Barack Obama prend la parole depuis la Maison Blanche.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Osama bin Laden, le chef d'Al-Qaïda, tué par les forces spéciales américaines dans la nuit du 1er au 2 mai 2011. Pour suivre l'opération, Barack Obama est alors avec son vice-président de l'époque, Joe Biden, dans la Situation Room de la Maison Blanche. Il y a une photo restée célèbre où l'on voit aussi John Brennan, ancien patron de la CIA, à l'époque conseiller antiterroriste du président américain. John Brennan se souviendra toute sa vie de ce jour-là. Il le raconte à notre correspondant Grégory Phillips.
Nous savions que nous voulions mener cet assaut avec des hélicoptères venus d'Afghanistan jusqu'au Pakistan. Les militaires nous ont dit que la meilleure option, c'était de faire cela en fonction du cycle lunaire. Ils voulaient que la lumière de la Lune soit la plus basse possible. Si on n'avait pas agi ce jour-là, nous aurions dû attendre 28 jours de plus. Depuis la Maison Blanche, nous avons pu voir ce qui se passait. Les coups de feu, les explosions. On avait aussi des rapports en direct des équipes qui étaient sur le terrain dans ce complexe résidentiel. Donc non seulement On voyait, mais on avait aussi quelqu'un qui nous racontait ce qui se passait. À un moment donné, on nous a informé que la mission était accompli. La cible ressemblait à Ben Laden, un individu très grand. Mais ce n'est que lorsque son corps a été rapatrié jusqu'en Afghanistan et qu'on a pu pratiquer des tests ADN sur sa dépouille que nous avons eu confirmation. Mais nous étions confiants. Quand les équipes sur le terrain nous ont dit « Geronimo », le mot-clé pour indiquer qu'il l'avait eu, à ce moment précis, on a ressenti comme un soulagement et la certitude que Ben Laden avait été retrouvé et tué.
John Brennan, témoignage en longueur à retrouver sur franceinter.fr. 20 ans après le 11 septembre, 10 ans après la mort d'Oussama Ben Laden, les États-Unis ont choisi de retirer leurs troupes d'Afghanistan. Les derniers GI quittent le pays ce week-end.
Le journal d'Hélène Roussel avec une question à présent. Si les coloriages des enfants prenaient vie.
Vous ne rêvez pas, c'est possible. Une simple photo via l'application Blink Book et tout s'anime. Après Le Petit Prince, les éditions animées proposent Les Fables de la Fontaine. Ça vaut bien d'en faire un fromage. Féline Leloir-Duhaut.
Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner qu'Homère la cigogne.
Nous avons tous appris et retenu au moins une fable de La Fontaine à l'école, mais Claire Faye, fondatrice des éditions animées, a elle beaucoup souffert pour retenir ses vers. Elle a donc trouvé une solution, colorier des dessins, les animer et devenir acteur de la fable.
Le cahier animé, c'est un livre d'abord qu'on va lire, et puis ensuite on va le colorier, et on va prendre en photo ces coloriages avec une application dédiée et gratuite, et instantanément, le coloriage qu'on a fait s'anime à l'écran. On a sorti une spécificité unique à ce livre, c'est que l'enfant va pouvoir réciter les fables de La Fontaine en mode karaoké. Donc il va pouvoir être acteur-voix, faire la voix off, faire le renard, faire la cigogne. Et au final, il récite sa fable et c'est beaucoup plus facile pour l'apprentissage et la mémorisation.
On retrouve bien sûr les fables les plus connues et au moment de choisir les voix, qui dans la famille fera le lièvre ou la tortue? Ces cahiers de dessins animés créent ainsi un lien entre les parents et les enfants.
Les parents vont faire la voix de la cigogne pendant que l'enfant fait la voix du renard ou l'inverse. Chaque personne de la famille va choisir un personnage de la fable. Ça devient un jeu familial.
Les enfants sont heureux et fiers de leur création et à la fin, ils sont même crédités comme réalisateurs.
La cigogne, son hôtesse, loua très fort. La politesse trouva le dîner cuit à point.
Les cahiers de dessins animés, les fables de La Fontaine aux éditions dessins animés.
8h12, l'heure des sports.
Rugby, 11 ans que les Toulousains attendaient ça, un ticket pour la finale de Coupe d'Europe après leur victoire sur l'Union Bordeaux-Bègles hier 21-9. Ils y seront le 22 mai à Twickenham, on saura contre qui tout à l'heure, peut-être du 100% tricolore si jamais la Rochelle bat les Irlandais du Leinster, coup d'envoi à 16h. Le foot, Lille résiste à la pression parisienne et se maintient en tête de la Ligue 1, 2-0 hier face à Nice. Le PSG un peu plus tôt avait fait tomber les 100 et or, Lens battu 2-1 à 3 matchs de la fin, un peu de suspense en Ligue 1. Enfin, eux, ils furent les révélations des derniers Jeux de Rio et ils se préparent désormais pour Tokyo. Les cavaliers français sont rassemblés en ce moment à Saumur pour un concours complet international 4 étoiles, le dernier avant les JO. On monte à cheval dans Esprit Sport ce matin. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Parmi ces cavaliers, un vétéran qui vit une sorte de seconde jeunesse.
Alors je ne vais pas pour vous parler du cavalier mais du cheval Coriano, 17 ans, monté depuis plus de 10 ans par Arnaud Boiteau, écuyer du Cadre Noir de Saumur et l'un des plus grands cavaliers français, champion olympique à Athènes en 2015. À l'époque, avec Expo du Moulin, son précédent cheval. C'est en 2010 que Boiteau fait la connaissance de son nouveau partenaire, repéré d'abord sur quelques images rapides d'une cassette vidéo à 4 ans, puis testé et immédiatement adopté pour ses qualités exceptionnelles, sa vitesse, son croisement Holstein et Anglo-Arabe qui font de Coriano un talent brut. Le temps que l'un et l'autre s'apprivoisent, les premières récompenses tombent. Un top 10 au Mondial, un top 5 au très prestigieux concours complet 3 étoiles de Blenheim en Grande-Bretagne, une belle 15e place aussi au championnat d'Europe en 2013. Mais rapidement, Coriano se révèle revêche, têtu, au point que cela devient un handicap, comme le raconte Arnaud Boiteau, interrogé par Grand Prix TV.
On a pu lui reprocher plus de, parfois d'avoir un mauvais caractère, pas être très coopératif, pas très envie. Quoi. Et des fois, ça a été assez extrême, parce qu'il a même été jusqu'à soit s'arrêter assez fermement sur le cross, ou faire des dressages quelquefois qui pouvaient être difficiles.
Un caractère difficile à dompter et des résultats qui manquent donc de régularité.
Ah, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, Arnaud Boiteau entame un changement de vie radical pour son cheval.
Car jusqu'à présent, comme la plupart, Coriano vivait en boxe à Saumur, mais vous l'aurez compris, sa personnalité à part ne collait pas avec ce mode de vie. Alors son cavalier décide de le prendre chez lui pour que Coriano vive désormais au pré, jour et nuit, sous surveillance bien sûr, mais proche finalement de son état naturel. Il mange de l'herbe, vit avec le chant des oiseaux et avec ses congénères, sans cloison maison sans séparation. Beaucoup plus libre, le cheval est aussi plus épanoui et les résultats se font rapidement sentir. Une deuxième carrière commence pour Coriano qui progresse techniquement, devient plus régulier. Arnaud Boiteau, amateur également de bons millésimes, le compare même à du vin qui se bonifie avec l'âge. Si bien qu'à 17 ans, ce qui précisons-le est un âge de fin de carrière, Coriano est presque plus en forme que jamais. À Saumur ce week-end, le couple est en lice pour le podium et surtout le cavalier et son cheval attendent les choix du sélectionneur français avec impatience, mais ont bon espoir de s'envoler pour Tokyo dans 3 mois. Comme quoi, dans l'équitation, on peut être sérieux quand on a 17 ans.
Pas que dans l'équitation, d'ailleurs. Demandez à Paul Nizan, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Merci Emma Sarango.
Et voilà pour la leçon dans le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et toujours avec cette fraîcheur, hein, Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, les températures vont encore plafonner à un niveau bas, entre 0 et moins 2 degrés sous abri, relevé en fin de nuit, notamment sur la Picardie, le centre, dans l'intérieur de la Normandie et de la Bretagne. Le maximum sera de 12 à 14 entre Brest, Lille, Reims et de Nancy à Lyon. 15 à 17 sur la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le centre Val-de-Loire et 20 à 22 sur le bassin méditerranéen. Avec aujourd'hui près des Pyrénées un temps gris, pluvieux et neigeux à partir de 1600 mètres. L'ambiance matinale est également chargée, des Vosges aux Savoies avec de la pluie en pleine, de la neige au-dessus de 1400 mètres. Le tout va s'éclaircir vers la mi-journée. Le soleil le plus durable, on va le trouver dans le couloir de la Manche, sur la façade océanique et le pourtour méditerranéen, mais avec un vent turbulent entre la Corse et le continent. Enfin, sur le reste du pays, les averses vont s'affirmer en seconde partie de journée.
Jean-Michel Golinski, Météo France.